Un des bruits agréables des vacances à la mer est le craquettement des cigales. En fait, ce sont les mâles qui, grâce à leurs timbales, émettent ce son strident. Les cigales font partie d'une grande famille de 1500 espèces différentes. Elles sont particulièrement voraces et curieusement ont une tête qui rappelle celle du cheval. Quand Attila, roi des Huns, a dit « Là où mon cheval passe, l'herbe ne repousse pas », il aurait aussi bien pu parler des sauterelles qui, poussées par le vent, se déplacent en nuages et quand elles en ont fini avec votre chant, il ne vous reste plus que les yeux pour pleurer. Je commence à lire le premier chapitre du livre du prophète Joël. Parole que l'Éternel a adressée à Joël, fils de Petuel. Écoutez ceci, vous responsables du peuple, vous tous habitants du pays, prêtez l'oreille. Est-il de votre temps ou bien du temps de vos ancêtres survenu rien de tel? Versets 1 et 2. Le prophète s'adresse aux vieillards et chefs du royaume de Juda, car ce sont les dépositaires des souvenirs de la nation. On sait combien les gens de la campagne conservent précieusement la tradition des anciens. À cette époque, chaque ville et village avait ses responsables, qui étaient généralement les hommes les plus âgés. C'était également eux qui exerçaient la justice, non pas dans un tribunal, mais près de la porte d'entrée de la ville. Joël demande donc aux responsables du peuple s'ils ont souvenir d'avoir entendu parler d'un pareil fléau. Cette question de rhétorique demande pour réponse un non franc et massif. Jamais personne de cette génération ou de celle de leurs ancêtres n'a entendu chose semblable. C'était un événement unique dans l'histoire du pays. Je continue. Racontez-le à vos enfants, qu'eux-mêmes le racontent à leurs propres enfants, qui, eux, le transmettront à leurs propres enfants. Verset 3. Ce malheur est tellement extraordinaire qu'il ne se répétera jamais plus et on peut donc le raconter comme un fait unique en son genre à toutes les générations futures. Environ 8 siècles plus tard, alors que Jésus était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui demandèrent « Dis-nous quand la fin du monde se produira et quel signe annoncera ta venue ?» Alors Jésus a prononcé des paroles similaires à celles de Joël, seulement au lieu de parler d'une plaie d'insectes, il a parlé des malheurs liés au jour de l'Éternel. Il a dit « Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. » Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat, car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde, et jamais plus on ne verra pareille souffrance. » Fin de citation. Quand les gens, et en particulier les Juifs, seront dans le malheur à cause de la grande tribulation, ils sauront que dans toute l'histoire de l'humanité, jamais une telle détresse ne s'est produite auparavant. Je continue le texte de Joël. Ce qu'a laissé le vol de sauterelles, d'autres sauterelles l'ont dévoré. Ce que les sauterelles ont laissé, les criquets l'ont mangé. Ce que les criquets ont laissé, les grillons l'ont mangé. Verset 4. Littéralement, le texte dit « Ce qu'a laissé le gazam, l'arbé l'a dévoré. Ce qu'a laissé l'arbé, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le hasil l'a dévoré. » Si on traduit, ça donne « Ce qu'a laissé le trancheur, l'essaimeur l'a dévoré. Ce qu'a laissé l'essaimeur, le lécheur l'a dévoré. Ce qu'a laissé le lécheur, le rogneur l'a dévoré. » Cette accumulation de mots menaçants a pour effet d'intensifier la puissance de destruction de ces sales bestioles. L'insecte, que nous appelons communément la sauterelle, est le criquet voyageur. Ces insectes sont agiles et difficiles à saisir. Elles ne sont pas douées pour la marche, mais sautent facilement, subitement et en toutes directions. Je me souviens quand j'allais dans les champs pour essayer d'attraper quelques grandes sauterelles vertes que j'utilisais comme appât pour pêcher le chevesne. Dans les pays chauds, les sauterelles se déplacent en bandes de région en région. Leurs mandibules sont puissantes et armées de petites dents aiguës. D'ailleurs, ça fait mal quand elles mordent. Les quatre noms que le prophète donne peuvent vouloir décrire différents stades de maturité du même insecte. Le gazam est la sauterelle quand elle arrive dans le pays éclaireur. L'arbée est la larve qui naît des œufs déposés dans le sol par le gazam. Le gélec est la larve devenue nymphe. Le chasil est la nymphe arrivée à l'état d'insecte mature, de sorte que le chasil est à peu près l'équivalent du gazam. Mais ces quatre noms hébreux pourraient aussi désigner des vagues successives d'attaques ou quatre espèces différentes de sauterelles. En Palestine, ce n'est pas ce qui manque. Un texte de la loi de Moïse dit « Parmi toutes les bestioles ailées qui marchent sur quatre pattes, vous mangerez celles qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici celles que vous mangerez, la sauterelle, le solame, le argol et le agab, selon leurs espèces. » On pourrait aussi dire « Vous pourrez manger les différentes espèces de sauterelles, de criquets, de grillons et de locustes. » Quoi qu'il en soit, en utilisant quatre mots différents, ce que Joël veut souligner est la forte présence de ces insectes, leur pouvoir destructeur et le fait qu'ils n'ont absolument rien laissé derrière eux, ce qui est renforcé par la signification de leur nom. Nous arrivons à une portion du texte en 9 versets qui est un appel général à porter le deuil et à exprimer sa détresse. On ne sait peut-être rien de Joël, mais il avait des dons littéraires parce que ce passage est très travaillé. Il est divisé en 4 sections qui commencent chacune par une invocation à se lamenter suivie de la raison. La première s'adresse aux buveurs de vin qui doivent sortir de leur torpeur. Ensuite, c'est la terre d'Israël qui, telle une jeune femme, nouvellement veuve, doit se désoler. Puis, c'est au tour des agriculteurs d'être consternés et enfin des prêtres de se revêtir d'un sac et d'hurler de douleur. Je continue le texte. « Réveillez-vous, ivrognes, pleurez, hurlez, tous les buveurs de vin, oui, car le vin nouveau est ôté de vos bouches. » Verset 5. Suite au passage des sauterelles, les vignes sont anéanties, ce qui veut dire qu'il n'y aura ni vendange, ni vin à boire. C'est tellement grave que cette destruction particulière sera répétée encore 3 fois. En effet, partout où les sauterelles sont passées, non seulement les récoltes de l'année sont détruites, mais celle de l'année suivante est compromise en quantité et en qualité. Cette attaque de sauterelles n'est pas un simple inconvénient, mais une catastrophe. L'ivronnerie est la seule faute que relève Joël. Il ne mentionne nulle part l'idolâtrie ou l'injustice sociale des péchés que la plupart des autres prophètes reprochent régulièrement aux Israélites. Je continue. « Un peuple attaque mon pays, il est puissant, on ne peut le compter, il a des crocs de lion, il a des dents de lion. » Verset 6. Cette invasion de sauterelles affamées ressemble à une armée de soldats. Et en effet, dans les proverbes, on lit « Les sauterelles qui, sans avoir de roi, s'avancent toutes en bataillons rangés. » Voici comment un voyageur décrit une invasion de ces insectes dont il a été témoin. À chaque phase de leur existence, les sauterelles produisent l'impression d'un jugement de Dieu atteignant le monde coupable. Voici les pionniers de l'armée. Ce sont les escadrons volants qui apparaissent au commencement du printemps. C'est par millions et poussés par une sorte de génie malfaisant qu'ils déposent leurs œufs dans les cultures, dans la plaine et dans le désert. Ceci fait, ils s'évanouissent comme la vapeur du matin. Mais 6 à 8 semaines plus tard, la poussière même semblait s'animer. Des vers grouillaient en quantité extraordinaire. Ils donnèrent bientôt naissance à de fort petites sauterelles qui, se traînant et sautant toutes dans la même direction, commencèrent leur marche dévastatrice. Quelques jours plus tard, leur appétit vorace se calma. Elles devinrent paresseuses, puis elles se mirent à jeûner comme les vers à soie. Ce jeûne, 4 fois répété, elles achevèrent de se transformer et furent pourvues d'ailes. Une fois en marche, les sauterelles dévorent toute verdure avec une merveilleuse célérité. Une vigne voisine de mon jardin était le matin verte comme un pré. Longtemps avant la nuit, elle était nue et dépouillée comme un champ fraîchement labouré ou comme une route poudreuse. Le bruit qu'elles produisent en marchant et en dévorant ressemble à celui que fait une forte averse sur une forêt éloignée. Les derniers jours de mai 1845 nous apprîmes que des millions de jeunes sauterelles remontaient la vallée en marchant dans la direction de notre village. On vint enfin m'annoncer que la colonne arrivait. Réunissant autant de monde que nous pûmes, nous allâmes à la rencontre des sauterelles pour les attaquer, dans l'espoir, sinon de les arrêter, du moins d'en détourner le torrent dévastateur. Je n'oublierai jamais l'impression que produisit sur moi leur aspect. Elles étaient dépourvues d'ailes et en quantité incroyable. Nous creusâmes des fossés, nous allumâmes des feux, nous en détruisîmes monceau après monceau, mais ce fut en vain. Une vague après l'autre de ce déluge vivant remonta la pente de la montagne, passant par-dessus les rochers et les murs. Les fossés et les haies, les derniers arrivants couvraient immédiatement l'espace que venaient d'occuper les insectes détruits. Après un combat prolongé et vain, je descendis dans la plaine pour me faire une idée de l'étendue de cette colonne, mais il me fut impossible d'en voir la fin. Fatigué de marcher dans cette masse grouillante, je pris le parti de rentrer chez moi, renonçant à tout espoir d'arrêter ce fléau dans sa marche progressive. Fin de citation. Quand Joël dit « Un peuple attaque mon pays, il est puissant, on ne peut le compter », le prophète n'exagère pas. Les volées de sauterelles qu'il a vues de ses yeux se sont comportées comme une armée conquérante moderne qui envoie d'abord des escadrilles de bombardiers pour attaquer un maximum de cibles. Ensuite, c'est l'artillerie qui entre en action pour détruire ce qui reste. Enfin, l'infanterie prend systématiquement possession du terrain et réduit à néant chaque poche de résistance. Ce n'est pas un hasard si plus loin, Joël, s'appuyant sur ce qu'il a vécu, va passer d'une invasion de sauterelles localisée au royaume de Juda aux guerres meurtrières qui, au jour de l'Éternel, embraseront la planète entière. Je continue le texte. Il a fait de mes vignes une dévastation et mes figuiers, il les a mis en pièces. Il a complètement pelé leurs troncs et jonché le sol de débris. Leurs rameaux sont tout blancs. Verset 7. Les sauterelles sont sans égard pour tout ce qui est végétal. Elles vont jusqu'à dévorer l'écorce des arbres et si elles s'arrêtent au bois nu, c'est parce qu'elles n'ont pas de temps à perdre et il y a d'autres végétaux qui attendent d'être déchiquetés en un temps record. À l'époque de l'Ancien Testament, la vigne et le figuier constituaient deux des principales richesses de la Palestine. Dans les Écritures, ils servent souvent à évoquer la paix, la sécurité et la prospérité. Je lis un passage. « Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier. » Il n'y aura personne qui puisse le troubler. » Fin de citation, je continue le texte. « Lamente-toi, mon peuple, comme une jeune femme qui aurait revêtu le vêtement de deuil. Lamente-toi, mon peuple, comme une jeune femme qui aurait revêtu le vêtement de deuil pour pleurer le mari de sa jeunesse. » Verset 8. Ici commence la deuxième section du passage « Travailler ». Cet appel est lancé au pays de Juda, identifié au peuple et personnifié par une jeune femme qui vient tout juste de perdre son mari. Pour exprimer leur douleur, les veuves et tous ceux qui subissaient un malheur personnel ou national portaient un vêtement sombre fait de tissus grossiers, genre toile de sac de jute. Le mot hébreu traduit par « jeune femme » peut désigner une jeune femme mariée ou bien une fiancée, c'est-à-dire une jeune femme dont le mariage a été juridiquement contracté sans que le couple n'ait encore cohabité. En effet, il pouvait s'écouler jusqu'à un an entre d'une part le mariage proprement dit et d'autre part les noces ainsi que le début de la vie conjugale. Je continue le texte. Quant au temple de l'Éternel, libations et offrandes lui font défaut, les prêtres qui font le service de l'Éternel sont dans le deuil, les champs sont ravagés, la terre est dans le deuil car le blé est détruit, le vin nouveau est dans la honte, l'huile fraîche a tari, versets 9 et 10. À cause de cette catastrophe, les prêtres sont en deuil parce que le service du culte de l'Éternel est dorénavant restreint. On peut encore sacrifier des animaux, mais les offrandes agricoles qui incluent l'huile d'olive ainsi que les libations de vin, tous des produits du sol, ont disparu et il en sera ainsi pour de longs mois et peut-être même une année. Ce passage montre qu'à l'époque où vivait Joël, le temple fonctionnait à plein régime, ce qui fait que même une interruption partielle du rituel prescrit par la loi de Moïse est un sujet de lamentation publique. Je continue. « Laboureurs, soyez confus, vignerons, gémissez à cause du froment et de l'orge, car la moisson des champs est perdue. Les vignes sont honteuses et les figuiers s'étiolent, le grenadier et le palmier, l'abricotier. » Tous les arbres des champs sont desséchés, la joie est dans la honte parmi les hommes. Versets 11 et 12. C'est le troisième appel du prophète à se lamenter. Il s'adresse à tous ceux qui vivent de l'agriculture, les laboureurs, les fermiers, les moissonneurs, les vignerons. Tous ces gens voient le fruit de leur dur labeur ou leur gagne-pain disparaître. L'auteur mentionne deux céréales et cinq fruits différents. Les raisins, figues, grenades, dattes et abricots. Rien n'a été épargné, tout a été dévoré ou détruit. Le grenadier est un petit arbre et il en existe plusieurs variétés en Palestine. La grenade atteint la grosseur d'une orange et même d'un œuf d'autruche. Ce fruit est très apprécié dans les pays chauds parce qu'il est juteux et donc très rafraîchissant. Joël dit que tout est desséché, ce qui est dû d'une part à l'effet dévastateur des sauterelles, mais aussi à l'absence de pluie et au vent desséchant qui a porté les nuages d'insectes. La sécheresse et l'invasion de sauterelles faisaient toutes deux partie de la longue liste de malédictions prévues par la loi en cas de transgression de l'alliance avec l'Éternel. Dans la culture juive, la moisson et les récoltes étaient des occasions de grande réjouissance, mais la joie qui est ici personnifiée est confuse et doit se retirer pour céder la place au deuil que tout le peuple va porter. La loi mosaïque ordonnait trois solennités annuelles, appelées fêtes ou rassemblements, et qui étaient des occasions données au peuple pour se réjouir devant l'Éternel. Ce sont la Pâque qui avait lieu le soir du 14e jour du premier mois. Elle était accompagnée de la fête des pains sans levain qui commençait le 15e jour et durait 7 jours. Deuxièmement, la fête des semaines, appelée aussi fête de la moisson et jour des prémices, que l'on nomma plus tard Pentecôte parce qu'elle se célébrait le 50e jour après la Pâque. Troisièmement, la fête des tabernacles ou des récoltes qui débutait le 15e jour du 7e mois et durait 7 ou 8 jours. ces trois solennités étaient jugées si importantes que tout adulte du sexe masculin en bonne santé et n'ayant pas d'infirmité devait, lors de ces fêtes, se présenter devant le Seigneur au temple. Jésus avait coutume de se rendre trois fois par an à Jérusalem pour assister à ces fêtes. Je continue le texte. Prêtre, revêtez-vous du sac, poussez des cris de deuil, lamentez-vous, serviteur de l'autel, venez passer la nuit vêtu du sac, serviteur de mon Dieu, car la maison de votre Dieu est privée d'oblation et de libation. Verset 13. Précédemment, Joël a déjà dit, les prêtres qui font le service de l'Éternel sont dans le deuil. Il reprend cette idée et la développe avec ce quatrième et dernier appel à se lamenter de cette portion de texte. Il s'adresse aux serviteurs de l'autel, littéralement à ceux qui font le service de mon Dieu, c'est-à-dire à la fois aux prêtres et aux lévites. Non seulement ils devaient porter le deuil, mais dormir dehors dans la cour intérieure du temple. Le sac de toile est un vêtement de deuil qu'on portait au moment d'une grande détresse, un drame personnel, une famine, une épidémie ou la guerre. Ces malheurs